Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Voilà donc dans cette suite des dimanches de Pâques ou des dimanches après Pâques, on peut dire les deux. Nous arrivons maintenant, nous sommes à la moitié de ce temps. Et nous commençons à... Le temps bascule vers l'Ascension et vers la Pentecôte. Et donc, dans ce cinquième dimanche de Pâques, eh bien, l'Évangile qui nous est demandé d'entendre et de méditer pour prier à partir de ce texte, c'est cet Évangile de la Samaritaine. Alors, vous savez que donc, la Samaritaine, il y a tellement de choses à dire sur un Évangile de cette sorte-là qu'on ne peut pas tout dire. Donc je vais essayer d'être bref, si vous voulez, de ne pas vous faire perdre dans trop de détails. Simplement, ce que je voudrais commencer par dire, si vous voulez, c'est que on a une espèce de pédagogie du Christ, une espèce de mouvement initiatique voulant dire de nouvelle naissance. L'initiation, initium en latin, c'est commencer, c'est le commencement. Et donc initiatique ou initiation, ça veut dire commencer quelque chose. Et la pédagogie du Christ est initiatique parce qu'elle amène la femme samaritaine à découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas, mais qui étaient présentes probablement en elle. Et cette pédagogie initiatique, si vous voulez, elle commence par quoi ? Elle commence par l'expérience du manque. Et Jésus, donc, commence par lui dire « j'ai soif ». Et que répond-elle ? Vous l'avez entendu, on peut penser que d'un ton méprisant, elle répond « mais comment, toi qui es juif, tu demandes à boire à moi une samaritaine ?» Vous voyez donc, elle ne le nomme pas, elle ne l'appelle pas, après elle l'appellera « Seigneur ». Là, elle lui dit « toi qui es juif, simplement, elle est en opposition ». Par rapport à ce qu'il aime. Mais lui a commencé par dire « j'ai soif ». Je pense qu'on peut entendre cette parole du Christ comme une parole adressée à chacun de nous. À chacun de nous, il dit « j'ai soif, donne-moi à boire ». Et l'eau qu'il nous demande, c'est notre cœur, c'est l'eau qui jaillit de notre cœur pour justement le recevoir, pour l'adorer, pour le glorifier. « J'ai soif, nous dit-il ». Que lui répondons-nous ? De même, dans l'Apocalypse, le Christ dit « Voici que je suis à la porte et que je frappe ». Le Christ est comme un mendiant, si vous voulez, comme quelqu'un qui a soif ou qui frappe à la porte, mais qui n'entre pas par la force, qui demande, qui est donc dans l'humilité. Et c'est très important parce qu'à l'Ascension, nous verrons l'importance de l'humilité, justement. Donc l'humilité. Et il place la Samaritaine en ce début du dialogue, dans une position de dire « mais comment ça se fait-il que tu demandes à boire, toi, juif, à moi, samaritaine ?» Et ça amène le Christ à introduire l'idée de l'eau vive, l'idée de que si elle savait qui il était, c'est elle qui lui aurait demandé à boire. Parce que lui, le Christ, il lui aurait donné de l'eau vive. Alors, elle s'étonne, elle dit « mais tu n'as rien pour puiser de l'eau », etc. Vous savez la suite. Et donc, Jésus lui répond que quiconque boit de cette eau, qui est l'eau matérielle, l'eau normale, l'eau que nous buvons nous-mêmes, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais, dit-il, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. On est toujours dans le premier mouvement ici, ce premier mouvement de l'initiation. Et ce premier mouvement, c'est faire prendre conscience à la Samaritaine du manque, c'est-à-dire du besoin d'eau, du besoin d'aller puiser à la fontaine tous les jours. Et comme le Christ, comme l'homme qui est là et à qui elle parle, lui parle d'une eau, d'une source qui jaillira pour la vie éternelle, son bon sens, tu fais dire, mais donne-la-moi cette eau, donne-la-moi, comme ça je n'aurai plus à venir à la fontaine, hein, et je n'aurai plus soif. Hein. Donc elle est sur un, elle aura des pâquerettes, tu vois, elle demande simplement qu'on lui simplifie la vie, qu'elle n'ait pas à chercher, qu'elle n'ait pas à venir à la fontaine à midi, à l'heure où le soleil est le plus chaud, le soleil est au zénith, hein, et c'est là qu'elle vient pour chercher de l'eau. Donc elle demande d'être délivrée de cela. Toujours donc dans le manque, si vous voulez. Toujours dans la demande d'une chose qui lui simplifierait la vie au sens matériel du terme. Et là, le Christ passe à un autre niveau, mais toujours dans l'expérience du manque. Il lui dit, va chercher ton mari. Et donc, la Samaritaine est amenée ici à dire qu'elle n'a pas de mari. Et le Christ lui dit, tu as raison de le dire, tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Elle vit en concubinage, donc, avec un homme. Alors qu'elle a eu 5 maris dont elle s'est séparée, a-t-elle été répudiée, on ne sait pas, mais elle s'est séparée en tout cas. Donc, si vous voulez, elle n'est pas, dans le cadre de la loi, en fait. Hein. Elle est pour une conscience un peu rigide, si vous voulez, on pourrait dire elle est dans le péché, le concubinage. Or, le Christ ne lui reproche rien. Simplement, ce qui lui dit, c'est donc, il lui révèle la façon dont elle vit. Je crois que c'est important ici, c'est de comprendre que justement, nous sommes tous dans le manque. Qu'est-ce que les 5 maris ? C'est les 5. Alors, bien sûr, il y a des symboles que Laurent nous expliquerait certainement mieux par rapport aux Samaritains. Mais là, on peut dire pour nous qui ne sommes pas des... Enfin, moi, je ne suis pas un expert de l'Écriture sainte. Hein. Donc, je veux dire, les 5 maris qu'elle a eus, ce sont 5 tentatives d'être heureuse, d'être comblée par un homme. Elle, qui est une femme, qui a besoin d'un homme, donc, qu'on a tous besoin d'un homme ou d'une femme, selon le sexe que l'on a. Donc, elle a cherché à être comblée. Elle a cherché, dans les hommes qu'elle a épousés, le sens de sa vie, et elle ne l'a pas trouvé. Donc, si vous voulez, elle est en manque, et il y a une frustration en elle. Il y a du manque, de la solitude, de la frustration, et c'est pourquoi elle vit avec un 6e homme avec qui elle n'est pas mariée. Donc, le manque et la frustration, si vous voulez. Et quand le Christ lui dit qu'elle a eu 5 maris, si vous voulez, et donc il fait comprendre qu'elle a, comment dirais-je, qu'elle cherche... Qu'elle a cherché, et qu'elle cherche encore dans les hommes, donc dans l'expérience, je dirais, sensible, quelque chose qui dépasse le sensible, quelque chose qui est. Elle cherche dans le passager elle cherche le fait que son désir soit comblé. Or, il ne peut pas l'être. Et donc, elle reconnaît. Et on entre dans le 2e mouvement de l'initiation. Elle reconnaît dans le Christ Jésus un prophète. Et elle lui dit, je vois que tu es un prophète. Voilà. Donc, et elle l'appelle Seigneur à partir de ce moment-là. Donc elle évolue elle-même. Je vois que tu es un prophète. C'est-à-dire tu vois la profondeur des choses. Tu connais les êtres tels qu'ils sont. Et elle s'ouvre elle-même à un autre niveau. Et ce niveau, c'est que il ne faut pas chercher l'infini dans le fini. Les relations, une relation conjugale, humaine, seulement humaine, ne peut pas amener l'infini, ne peut pas amener l'éternel. Il faut une autre dimension. Et c'est pourquoi le mariage est toujours sanctifié par l'Église et par la bénédiction de l'évêque à travers le prêtre. Sans cette sanctification, si vous voulez, on ne pourrait pas faire du couple une recherche vers l'éternel, un laboratoire où on expérimente le mouvement vers l'infini, vers la présence de Dieu. Le mariage sans la bénédiction, sans le Christ, sans Dieu, donc, effectivement, c'est une impasse, d'une façon ou d'une autre, si vous voulez. Il y a des choses qui manquent, qu'on ne pourra pas trouver. Et donc, cette Samaritaine qui, donc, a compris... Ce prophétisme, enfin, elle a compris que le Christ donc, est un prophète. Et elle lui pose une question importante. On passe à un autre plan presque théologique, c'est « Mais où faut-il prier ?» chez nous à Gerizim ou bien à Jérusalem. Et là donc, on passe, si vous voulez, à un niveau plus élevé qui est celui de l'adoration. Où est-ce qu'on peut adorer Dieu? Et le Christ dit donc que, alors vous voyez, il ne renie pas le fait qu'il est juif. Il dit bien, nous les juifs, vous les samaritains, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous les juifs, nous le connaissons. Nous connaissons ce que nous adorons. Et donc, le salut vient des juifs. Et donc, il ne renie pas sa judéité, pourrait-on dire. Mais s'il ouvre la perspective, c'est que maintenant, l'important, c'est plus Gerizim, le mont Gerizim ou Jérusalem, c'est plus des lieux. L'important, c'est de prier, de faire l'adoration en esprit et en vérité. Ed Nema Kai Aleteia. Donc en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on passe à une autre relation qui est donc la prière, l'adoration en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'heure vient, dit-il, l'heure vient, et elle est déjà là où, effectivement, on va adorer en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce qui fait que cette heure vient? Eh bien, c'est la Pentecôte. On a là une annonce de la Pentecôte. C'est pour ça que l'Église nous fait lire cet évangile aujourd'hui, dans ce dimanche qui précède la Pentecôte. Car l'heure vient où l'on adorera Dieu en esprit et en vérité, c'est la présence de l'Esprit-Saint en nous. Et l'Esprit-Saint en nous, donc, il nous fait adorer en vérité. Donc, dans l'absence de léthargie, dans le réveil, je ne trouve pas le mot, vous voyez, il y a des mots que je ne trouve pas comme ça malheureusement, dans la conscience éveillée, si vous voulez, en esprit et en vérité. Et cette vérité donc, eh bien, c'est celle qui fait de nous des êtres libres. Car le Christ dit, et c'est Saint Jean qui le rapporte un peu plus loin dans l'Évangile, la vérité vous rend libre. Donc adorer Dieu en esprit, donc dans l'Esprit Saint et en vérité, c'est être libre, c'est être dans la liberté. La liberté n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas donnée par des gens extérieurs, elle est à l'intérieur de nous, cette liberté. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que, plutôt on parle de la liberté des enfants de Dieu, c'est parce qu'on adore en esprit et en vérité. Et la Samaritaine continue, elle dit même, on dit que le Christ va venir, le Messie, qu'en penses-tu, toi? Vous voyez, donc le dialogue continue et s'approfondit. Et là, le Christ, avez-vous remarqué cela? Lui répond, alors en français, il lui répond, si vous voulez, quand la Samaritaine dit, je sais que le Messie, qu'on appelle Christ, doit venir. Et quand il viendra, il nous fera connaître tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, ce Messie. Donc, c'est la première fois qu'il révèle ce qu'il est, et il le révèle à une Samaritaine, c'est-à-dire à une hérétique, à quelqu'un qui ne vit pas dans la morale, à quelqu'un qui est en dehors, si vous voulez, à laquelle il ne fait pas de reproche. Il ne lui dit pas, mais c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais te marier. Enfin, il ne fait aucune morale. Mais il lui révèle qui il est. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de voir dans le texte grec. Quand en français, on lit « je le suis », le texte grec dit « ego eimi ».« Ego eimi ».« Je suis ».« Ego je eimi suis ». Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans l'Exode, ou pardon, c'est dans l'Exode ou dans la Genèse, je ne me souviens plus, c'est au début de l'Exode, chapitre 3, Moïse est devant le buisson ardent qui brûle. Et par le buisson ardent, la voix de Dieu lui dit, va libérer mon peuple sous le joug de l'Égypte. Et donc Moïse entend cette voix et il dit, mais quand j'arriverai en Égypte, mes frères, les Hébreux, me demanderont, mais qui t'envoie? Qui t'envoie? Que leur répondrai-je? Et du buisson ardent vient la réponse, tu leur répondras, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Ego eimi m'a envoyé. C'est-à-dire que quand le Christ dit « Je suis ego eimi », c'est le nom que Dieu... c'est le nom que Dieu donne pour que Moïse parle aux Hébreux. Yod et Vav, le tétragramme sacré que le grand prêtre ne prononce qu'une seule fois par an dans le temple, est contraint par « Je suis ego eimi ». Et c'est la première fois qu'il le dit, et c'est donc à cette Samaritaine qu'il le dit. Et du coup, j'ouvre une parenthèse. Lors de l'arrestation de Jésus à Gethsémani, vous savez, il y a les soldats qui arrivent. Donc Jésus, le Christ a transpiré des gouttes de sang, les apôtres ont dormi, et on entend une troupe qui arrive. Et le Christ leur dit, réveillez-vous maintenant, voilà, l'heure est venue. Les soldats entrent dans le jardin, Jésus leur demande, qui cherchez-vous ? Les soldats répondent, Jésus de Nazareth. Alors, dans le texte français, on lit Jésus qui dit, c'est moi. Et, dit Jean, ils reculèrent et tombèrent à la renverse. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pourquoi tombent-ils à la renverse alors que Jésus leur dit, c'est moi ? Qu'est-ce qui les fait tomber à la renverse ? Eh bien, on comprend en lisant le texte grec. C'est-à-dire que quand le Christ dit, qui cherchez-vous ? La réponse, Jésus de Nazareth, le Christ leur dit, ego eimi, je suis, et pas c'est moi, je suis. Et ils tombent à la renverse, parce que c'est le nom de Dieu que Jésus se donne là maintenant. Et c'est ça qui, au moins moralement, les fait tomber à la renverse. Ils entendent le nom de Dieu prononcé par cet homme qu'ils viennent arrêter pour l'amener devant Hérode, puis devant Pilate, enfin pour toute la passion après. Il dit « Ego eimi, je suis », et ils en tombent à la renverse. Tellement c'est invraisemblable, inattendu, absolument prodigieux, incroyable même. Si vous voulez, « Je suis ». Alors oui, c'est important de lire les textes grecs pour comprendre bien souvent le sens de l'Évangile. Et donc là, ce « Je suis », eh bien, il est dit à la Samaritaine. « Ego eimi », donc. Et la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va donc aller annoncer qu'elle a rencontré le Christ. Elle va être la première femme qui prêche, au fond, le Christ, qui prêche la présence du Christ, la présence du Messie parmi eux. Et elle va convertir ses compatriotes, pourrait-on dire, parce que les Samaritains vont venir voir Jésus et lui demander de rester chez eux. Et le Christ va rester 2 jours avec eux. Et à la fin, lorsqu'il s'en va, les Samaritains disent à la femme qui, d'après la tradition, s'appellerait probablement Photine, c'est-à-dire Claire. C'est la tradition qui dit ça. Photine serait son nom. Et donc, cette femme, les Samaritains disent « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. » Voilà, dans ce début de Saint Jean, c'est le chapitre 4, on est au début de Saint Jean. Eh bien, voilà, la révélation est faite à une Samaritaine qui prêche aux Samaritains qui reconnaissent dans le Christ le Sauveur du monde. Voilà. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire. On pourrait passer des heures sur cet évangile. Pour conclure, je voudrais dire simplement ceci. C'est que d'abord, premièrement, cette femme Photine, la Samaritaine, elle est bien l'image de nous-mêmes. Nous cherchons toujours, tous, toujours, ce qui nous manque. Et nous le cherchons comment ? Dans la répétition, dans le fait que nous recommencions ce que nous avons connu. Pourquoi est-ce qu'on divorce et qu'on se remarie 2 fois, 3 fois, 4 fois ? On est toujours dans le même processus qui aboutit à la même impasse. C'est qu'on n'a pas évolué, on n'a pas changé, on n'a pas introduit la dimension d'éternité, la dimension divine dans ces relations du mariage ou du concubinage, parce que maintenant, c'est un peu presque équivalent dans notre société. Et pourquoi est-ce que beaucoup de concubinages tournent mal ? C'est parce qu'il n'y a pas eu justement le mariage, la bénédiction et la présence de Dieu. Donc, nous cherchons Nous cherchons donc tous à combler nos manques de la même façon par le plaisir des sens, par l'alcool, par le tabac, par la télévision, par les distractions diverses, si vous voulez, par les romans, par tout ce qui fait que nous cherchons à combler la souffrance de notre manque. Comme la Samaritaine, donc, qui a eu 5 maris et qui vit en concubinage maintenant. Mais si on s'arrête à cela, si on s'arrête là, au plaisir des sens, donc à la dimension corporelle, si on s'arrête là, on ne parviendra jamais à la dimension à laquelle nous sommes appelés, donc qui est de boire l'eau vive. Cette eau vive qui est donc dont la source est le Père. La source de l'eau vive, c'est le Père. Le fleuve qui coule de cette source, c'est le Christ. Et celui qui nous fait boire à cette source, c'est l'Esprit Saint. La Trinité est présente. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, donc à reconnaître le Christ dans notre vie, et donc à ne plus nous tromper de cible. Le péché, amartia, c'est on se trompe de cible. Et se tromper de cible, c'est très fréquent quand nous voulons, quand une expérience a échoué, une expérience qui était vitale pour nous, elle a échoué, nous voulons recommencer une autre expérience autrement, mais sur le même mode, avec quelqu'un d'autre, mais sur le même mode. Eh bien là, il y a une erreur, il y a une impasse là. Et le Christ veut nous sortir justement de cette impasse. Je vous ai dit tout à l'heure, le Christ dit aussi que je frappe à la porte. Il dit j'ai soif, mais c'est lui qui frappe à la porte. Donc accueillons-le, ouvrons notre cœur à sa présence et cherchons non plus dans le fait de combler par des ersatz notre désir qui est un... Le désir, il est infini. Il est infini. C'est-à-dire que quand il est comblé, je dirais, sensuellement ou humainement, le désir s'arrête pendant un temps, mais il revient. Et ce désir, Saint Grégoire de Nice va dire que l'éros, le désir éros, peut devenir et doit devenir le désir de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand on vit avec Dieu et en Dieu, l'éros est toujours là. Mais c'est l'éros divin, c'est le désir de Dieu lui-même qui fait que l'on va de commencement en commencement vers des commencements qui n'ont pas de fin. Et notre vocation, ce n'est pas de tuer le désir en nous. Ce n'est pas de dire « je ne manque de rien », nous manquons, nous sommes dans le manque. Nous manquons effectivement, on ne peut pas le nier. Donc il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas tuer le désir en nous non plus. Le désir est fondamental. Sans désir, nous n'avançons pas, nous ne progressons pas, nous ne vivons pas. Le désir est fondamental. Mais il faut comprendre que ce désir, au-delà de l'humain, au-delà de ce qui est de ce monde, doit être orienté vers Dieu et attendre de lui d'être comblé. Le désir nous lance vers Dieu si nous le comprenons bien, si nous le vivons comme il le faut. Et enfin, je voudrais vous rappeler que donc, le Christ, je vous l'ai dit, mais je le rappelle là, le Christ ne condamne pas la Samaritaine. L'important, c'est qu'elle s'éveille à l'essentiel. Mais il ne la condamne pas, comme il n'a pas condamné non plus la femme adultère. Il lui seulement va et ne pêche plus. Hein, quand le Christ dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Là, il n'y a pas de dialogue, entre la femme adultère et le Christ. Hein. Mais il ne la condamne pas. De même qu'il ne condamne pas non plus la pécheresse, hein, qui est donc, d'après la tradition, Marie de Magdala, qui vient oindre ses pieds de parfum et qui les suit avec ses cheveux. Et cette femme qui est une prostituée, donc, ou qui en tout cas a des amants divers et assez nombreux, il ne la condamne pas. Et enfin, si vous voulez, dans la parabole du fils prodigue, le père ne condamne pas le fils, il ne lui fait pas la morale. Le Christ ne fait jamais la morale, jamais, en aucune façon. Mais il nous éveille. Tout ce qu'il veut faire, c'est nous éveiller à la vérité, nous éveiller à la véritable adoration du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour nous, pour être donc libres, affranchis de la mort et pour que nous grandissions en lui. Le Christ est ressuscité. Amen.